En octobre 2022, le label discographique belge Vlek éditait le deuxième album en solo du compositeur Maxime Denuc. Après avoir produit le premier album de l'artiste, intitulé Solarium, sorti en numérique en 2020, le label basé à Bruxelles publiait Nachthorn, toujours en digital, mais cette fois aussi en physique. Cinq mois plus tard, les 500 exemplaires du premier pressage en vinyle étaient tous vendus et un deuxième pressage enclenché en suivant. Performance discrète, mais tout de même prometteuse pour l'avenir de cette production saluée avec enthousiasme par la critique spécialisée et beaucoup moins spécialisée. Nachthorn, for MIDI controlled organ, pour orgue contrôlé en MIDI. Album 8 titres, d'une durée de 5 minutes chacun en moyenne, pour un total de 38 minutes, Nachthorn tire son nom de l'un des 78 jeux qui composent l'orgue principal de l'église Saint Antonius à Düsseldorf en Allemagne. Cet instrument, équipé d'un système développé par la société allemande Sinua, offre en effet la possibilité de contrôler tous ses claviers et timbres via un ordinateur. L'orgue devient ainsi un synthétiseur d'une puissance hors norme. Ce dispositif singulier permet alors, avec le concours du label Vlek, à Maxime Denuc de réaliser un vieux rêve. Créer une pièce de dance music entièrement acoustique avec l'orgue comme seul instrument. Oscillant entre dub techno, harmonies en boucle ou after hours pop, Nachthorn propose une musique hypnotique dont les lignes esquissent le contour d'une rave imaginaire. Rencontre avec l'intéressé autour d'un café et d'une copie de son vinyle à l'occasion d'un de ses passages à Toulouse où il a encore quelques attaches. Où l'on parle production discographique, orgue, norme MIDI, plap-plap pinky, influence et de ceux qui, sans leur concours, ce projet n'aurait peut-être pas abouti.
Tu veux un café ?
Allez, je veux bien, ouais. Bon, ça arrive un peu.
Donc, t'as ta copie, là. Tu verras en plus, tu reconnaîtras la première copie.
La tranche est ratée.
C'est le premier pressing, ça sera pas sur le
d'accord.
second.
Voilà, d'accord.
Si y a une collection un jour sur Discogs, tu diras. Premier pressage.
Et on vous a fait la remarque pour ça ?
Non.
Non ?
Non.
Et seulement ceux qui savent, savent.
Bah ouais, je pense que ceux qui ont remarqué, moi j'ai remarqué quand je l'ai vu, mais voilà, quand les 500 sont arrivés.
Ouais, c'est pas non plus flagrant, quoi.
Non, non, non,
faut ça reste assez discret, ouais. Café maison.
Café de cafetière, ouais, c'est pas terrible, hein. Désolé, hein. Je vais me faire engueuler en plus.
Bien. Écoute, on peut commencer de manière un peu informelle. J'ai quelques très vagues notions d'allemand.
Ouais.
Oui, vas-y.
C'est bon. Oui.
Et je me suis hasardé à une tentative de traduction du titre.
Oui.
Et je me suis dit que j'y retrouvais le mot nuit et le mot épine. Rien à voir ou...
Non, c'est corps, un corps. Horn, comme horn en anglais, c'est
ah,
pareil.
Oui. Non. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, oui. Et non pas sorn.
Donc c'est un corps, oui, oui, c'est un corps de nuit. Voilà, donc c'est le nom d'un jeu d'orgue. Donc corps de nuit, et donc voilà, Nartorn, c'est le nom d'un des jeux de l'orgue sur lequel j'ai joué. Donc voilà, c'est une sorte de flûte en fait. Voilà, je peux voir Nartorn, mais qui, donc là, ils m'en disent, mais voilà, corps de nuit, c'est un jeu d'orgue spécifique, bouché, donc c'est une sorte de flûte un peu ronde, fermée.
Tu peux faire sonner là?
Ah non, non, je peux pas faire sonner. Là, le Nartorn, on l'entend sur certaines pistes. Là, le Nartorn 4, je crois que c'est ce qui commence le morceau Düsseldorf. Et voilà, c'est un de mes timbres que j'ai préféré, enfin que j'ai beaucoup utilisé sur ce disque, et du coup, en cherchant un titre, c'était pas forcément évident de chercher un titre à ce disque, et je pense qu'on a, voilà, j'ai voulu rendre aussi un hommage à cet orgue, cet instrument, cette église aussi, et ces gens qui étaient dedans, donc voilà, en donnant un titre d'un des jeux de cet orgue.
Le titre d'un disque, c'est peut-être pas forcément la première chose à laquelle on pense, non ?
Ah, j'y avais pas du tout pensé jusqu'après le mixage. Mais justement, et ça me semble quand même être un point d'accroche important, de la même façon que le visuel de ce disque, où on a aussi pas mal réfléchi. Voilà, moi j'aime bien les visuels très simples, donc voilà, forcément un bleu comme ça. Mais on s'est aussi posé la question de comment y présenter, comment par exemple... Au début, il n'y avait que le titre sur la pochette, c'était assez énigmatique comme ça, mais moi je me suis dit, ah oui, bah, tiens, si on voit cette phrase, un orgue contrôlé à midi, qu'est-ce que c'est ? Donc avec Jonathan, le graphiste, on a un peu réfléchi à cette question, comment ça pouvait, justement, si on est dans un bac de disques, on a un disque tout bleu, tout comme ça, et on passe, et en fait, en haut, on voit ça, for midi contrôle organe, je pense que ça interroge un peu. C'est-à-dire comment avoir une sorte de... On va dire, je ne sais pas si on peut dire accrocheur, mais quelque chose qui donne envie avec un visuel très simple et très minimal. Voilà, donc ça a aussi fait son effet. Et voilà, donc le titre, ça a été aussi une réflexion qui me semblait quand même... on pense une pièce, on la pense en entier, donc les morceaux, les titres des morceaux et le titre du disque, c'est quand même assez important, je pense.
Allez, une dernière question sur les titres, mais qui va nous donner une ouverture. Hein. Il y a un titre d'ailleurs qui s'appelle comme ça dans le...
Ouais, totalement.
Donc dans le sous-titre apparaît le terme MIDI. Pour ceux qui se sont un peu intéressés à la musique électronique des premiers temps, c'était quelque chose... on était obligé de passer par la norme MIDI. Mmh. Ensuite, elle est un peu tombée en désuétude. Et,
Jamais vraiment, hein, mais bon. Ouais. Parce qu'elle est toujours là quelque part, donc...
Bien sûr, mais avant tout le monde fonctionnait avec un séquenceur et un sampler, et pour les faire communiquer, il fallait cette interface indispensable. Mmh. Ensuite, le terme est rentré un peu dans le vocabulaire, on parle d'un son MIDI, ce qui est en réalité un peu faux, puisque... Et dans le sous-titre, le terme est mis en avant, et c'est peut-être même un argument, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de jouer avec un orgue MIDI ? Il n'y en a pas beaucoup. Et pourquoi c'est intéressant de le mettre en avant ?
Alors, c'est intéressant de le mettre en avant parce que, en fait, alors je sais pas si c'est intéressant, mais moi, ma pratique était vraiment celle-là. Donc, sur ce disque, j'avais travaillé avec des organistes avant. Moi-même, j'arrive à jouer sur un orgue, je veux dire, mais j'ai plutôt dans un style de. Plutôt pour composer. Je travaillais avec Cindy Castillo sur ma pièce précédente, avec qui je travaille toujours. Mais cette possibilité qu'offrait, donc là, c'est un orgue qui a Düsseldorf qui est complètement. MIDI contrôlable, donc c'est-à-dire que via un séquenceur, on peut arriver à contrôler ses claviers d'abord, donc toutes les notes qui jouent, les timbres, donc changer les jeux d'orgue et tout ça, et aussi ses pédales d'expression. Et à partir de là, du coup, moi j'ai doublé un peu cette recherche, donc bon, on peut l'utiliser de façon très simple avec un séquenceur donc MIDI, une norme qui permet d'envoyer depuis l'ordinateur des notes à cet orgue. Mais après, moi, je l'ai utilisé dans une façon où j'ai créé moi-même des programmes, Max MSP pour ceux qui connaissent, voilà, qui me permettent en fait de sortir de tous les réflexes de jeu au clavier et qui permettent aussi d'avoir des mouvements en fait que l'organiste lui-même ne pourrait pas jouer avec les mains. Donc voilà, par exemple...
Ou alors il faudrait être deux, trois...
Même, il faudrait être deux, mais ça dépend. Par exemple, là, on a une vidéo de mes patchs. Je l'avais mis sur... Voilà, ça permet de voir le patch qui tourne. Bon, toi, tu as déjà vu du max. Attends, je sais que j'ai... Ça, c'est l'orgue qui joue. C'est les deux claviers de l'orgue qui sont en train de jouer. Donc, on voit, ça, c'est la courbe qui est jouée. Les notes qui sont envoyées régulièrement sur le clavier du grand orgue. Et ça, c'est le positif. Donc, tu veux, même l'organiste.
Donc, un organiste manuel, disons, s'il entend ça,
il pourra pas le jouer.
Non, mais il se demanderait, mais ils sont... ou alors il se dirait, ils sont deux à faire ça.
Ben là, sur ce track particulièrement, je pense qu'il est quasiment impossible. Il y en a deux, trois qui sont même à quatre mains ou quoi, qui sont impossibles. Après, il y a l'autre apport, ou des apports, parce que pour pas mal de gens, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je pense qu'il y en a plein qui pensent que ça a aussi de l'intérêt, notamment moi et plein d'autres. Mais en fait, la régularité pure qui est imposée par la machine, un organiste aura beau jouer tant qu'il veut, comme un batteur. Un batteur, l'idée de la musique électronique ne cherche pas à reproduire, en fait... de l'humain, enfin d'essayer de retrouver l'humain. Là, le fait que ça soit très mécanique donne aussi quelque chose de une certaine poésie des machines, et ce son acoustique contrôlé mécaniquement, à mon avis, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc par exemple, voilà, sur le morceau Finite End, voilà, alors on entend bien ça en fait. Hein. Ça, ça serait jouable à la main. Hein. Mais on sera jamais aussi régulier. Donc c'est cette régularité métronomique un peu qui donne ce côté presque un peu bête comme ça, mais qui en fait à mon avis fait aussi le sens de la musique.
C'est peut-être là un des axes du lien qu'il me semble que tu souhaites créer entre cet instrument,
ouais.
Ces sons qui sont quand même très caractéristiques et connotés plutôt liturgiques, et avec... les divers courants des musiques électroniques, notamment de danse.
Ouais, alors moi, bon, le côté, c'est vrai que bon, on y revient toujours, hein, on est obligé d'en parler, parce que forcément, l'orgue, pour des novices, c'est le côté liturgique. Mais c'est vrai que moi, je dois dire que j'ai presque perdu, en fait, si tu veux, tout ce rapport au religieux, en fait, parce que c'est des instruments. Mais forcément, il y est, hein, je critique pas ça, forcément, on l'entend. J'étais quand même dans une église, j'ai créé ça... qu'est-ce que je veux dire ? Oui, moi je vois ça, c'est vraiment un synthétiseur. Ça devient vraiment, dans cette approche-là, un synthétiseur acoustique. Je suis dans la boîte, de la même façon que l'église est une sorte de warehouse, si tu veux, de hangar de rêve, quand j'imagine ça. Moi je suis dedans et je travaille vraiment comme ça. C'est-à-dire que je m'aperçois que, parce que c'est pas la première pièce que je fais, ça fait 10-15 ans que je traîne dans des églises à faire de la musique dedans. Tu vois, je vois une grosse boîte acoustique avec un instrument dingue à l'intérieur, donc voilà, qui donne plein de possibilités. Et là, je dois dire qu'en plus, cette possibilité de le contrôler à midi, et l'autre force qu'il y a quand même particulièrement sur cet instrument, par exemple, là, je vais faire un concert en Belgique, où là, je contrôle que les claviers, je dois jouer les jeux à la main, mais là, le truc, c'est que tous les jeux sont aussi contrôlés à midi. Donc, tu vois, par exemple, là, je peux te montrer, bon, alors ça, c'est, par exemple, c'est un des morceaux, c'est un des patchs, mais même sur une partition Ableton Live, parce qu'en fait, il y a toujours Ableton derrière pour faire les structures un peu des morceaux. Hein. Mais voilà, par exemple, pour faire les structures, mais par exemple, Ableton va envoyer à des patchs Max MSP, par exemple. Mais là, tu vois, par exemple, je pense que Max Preset, on voit bien que là, normalement, si on voit comment on fait pour afficher des courbes ici, je ne sais même plus. Non. Parce que là, on voit que j'ai une courbe de... Là. Tu vois, parce que ça, on voit que c'est automatisé. Je vois pas, on voit pas la courbe. Ah oui, c'est là. Voilà. Donc là, tu vois, ça, par exemple. Tac. Donc il y a en plus de la musique qui tourne. Ça automatise en fait tous les changements de jeu. Donc d'un coup, tu peux passer de une flûte à 80 jeux en même temps d'orgue. Donc c'est un truc assez génial de cet orgue. C'est un contrôle instantané. Donc on passe à 4 mesures suivantes et on tombe totalement tout de suite
Sans le faire, là, si je dois le faire sur les nouveaux orgues, c'est un manuel, donc ça va être moins précis. Là, c'est vraiment un truc pour être carré, et ça répond vraiment à la milliseconde près. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, c'est une espèce de gros synthétiseur avec lequel j'essaie, oui, ben là, de rechercher des musiques de danse. Mais après, on va dire que c'est inspiré, parce qu'il y a quand même... Il n'y a pas de kick, par exemple, si tu t'entends. Il n'y a pas d'instrument rythmique, très peu. J'ai essayé, j'ai quelques morceaux au début où j'avais essayé, justement, j'avais ce rêve au début à me dire on va utiliser les tubes graves de l'orgue très courts, de façon très courte. Et ça peut marcher un peu, mais généralement, c'est un peu mou et un peu imprécis, donc c'est un truc qu'on n'a pas totalement gardé. Mais j'ai quand même une piste, je crois, là. Voilà, c'est vraiment pour toi.
Mais peut-être l'idée, c'est de faire de la techno sans faire de la techno.
Oui, voilà, parce qu'après, de toute façon, moi, je suis aussi totalement conscient que, voilà, le but est d'inventer autre chose, tu vois, d'utiliser les classiques, en fait, pour essayer d'inventer autre chose. Mais on avait eu ce projet sur lequel déjà tu étais venu, de Raver Stay With Me avec Pla Pla Pinky, donc le duo que j'avais avec Raphaël Hénard. Et très chouette comme projet, mais c'est un projet où on s'est rendu compte, est-ce que finalement... voilà, est-ce que ça avait vraiment un sens de faire ça? Est-ce qu'on peut faire une rave dans une église vraiment au sens propre? Est-ce qu'on peut... Déjà, très acoustiquement, c'était très compliqué parce qu'on devait régler... j'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Ce projet a été quand même nourri par ça et donc en continuité de ça derrière.
Donc c'est un peu attirant les conclusions de ce premier projet que peut-être est arrivée l'idée, si on le fait jouer par midi et qu'on a un contrôle bien plus précis... Eh bien, on va arriver à surmonter les écueils qu'on a rencontrés sur les premiers projets.
Oui, et ça, c'est vrai qu'on l'avait déjà expérimenté avec Plapla. Donc, c'est un truc que j'ai continué tout seul, mais la matrice, en fait, a été déjà quand même dans le duo qu'on avait et la réflexion qu'on avait ensemble. Je pense qu'on s'était déjà dit que potentiellement, on avait peut-être peur de ce manque de rythme. Mais parce que déjà, à l'époque, on était déjà dans des recherches comme ça, utiliser l'électronique pour... juste faire des pulsations fantômes, voilà, on voulait juste qu'il y ait quand même de la pulsation, mais sans le midi, on n'y arrivait pas, par exemple, faire des pulsations fantômes d'orgue en mettant dessus des petits filtrages très légers pour faire... ça, on le faisait déjà. Mais... j'ai perdu... Oui, le vrai truc, c'était faire de la musique dans une église qu'avec de l'orgue. Voilà, ce qu'on ne faisait pas à l'époque, on mêlait avec des sons, et je pense que la clé, ça a été une des clés, parce que, en fait, il est taillé pour l'espace... Et donc, en fait, ça va tout seul. C'est vrai que c'est logique. Bon, là, en plus, à Düsseldorf, ça a été des conditions de travail fantastiques. Ça a été une chance de tomber.
On peut dire que le bâtiment qui entoure l'orgue, en général, c'est l'orgue aussi.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Là, par exemple, c'est pas... Tu vois, tu fais une sorte de compromis. On va dire que c'est pas le plus bel orgue du monde en soi. Il y a beaucoup, surtout ici, là, dans la région. Enfin, à Toulouse, il n'y a pas d'orgue midi, mais même, je pense qu'il y a... Là, je vais jouer à Orgelpark... Amsterdam, qui est un peu le temple de l'orgue, qui est un super bel orgue midi en mai et tout. Il y aurait peut-être des endroits où l'acoustique serait mieux, a été pensée. Mais là, je dois dire, à Düsseldorf, il y avait un mix entre les possibilités. L'acoustique n'était pas dingue, et après, juste un accueil par des gens formidables qui me laissent le droit de bosser toute la journée, de 9 à 22 heures. J'ai fait 4 semaines là-bas, gratos, quoi.
C'est pas le cas dans toutes les églises ?
Non, ça va être très compliqué, parce qu'il y a des services, parce que là, voilà, il y avait une messe tous les soirs, mais à 17h30, je coupais, et je pouvais reprendre à 19h, et 19h, je pouvais travailler jusqu'à ce que le cantor qui s'occupait de l'orgue, la Marcus Hintz, qui est le monsieur musique de l'église, venait fermer l'église derrière moi. Bon, voilà, ça a été des conditions de travail, genre rêver, et aussi cette possibilité de passer beaucoup, beaucoup de temps sur un instrument. C'est-à-dire, ce disque aurait été impossible sans cette phase-là. D'ailleurs, tu peux remarquer sur le disque, c'est la première personne, Marcus Hintz, qui est dans les remerciements. Bon, voilà, sans lui, en fait, ça n'existe pas.
Ça fait sens.
Ouais.
Alors, on n'est jamais sûr de tout connaître, et moi encore moins que les autres. Mmh. En termes de musique d'orgue, ce genre de démarche de transversalité, est-ce qu'on est peut-être au début d'un champ des possibles qui reste à défricher en totalité ou...
Par rapport à quoi tu veux dire la transversalité au sens large, cette idée de chercher...
Eh bien, de sortir... l'orgue de l'église, d'une certaine manière,
ah oui,
et de faire aller
voilà,
vers bon. Des esthétiques. J'ai vu que tu en citais 3-4 dans ton descriptif, autant la musique de danse que tu as même utilisé le terme pop à un moment.
Ouais, after hours pop, genre, non, mais qu'est-ce que j'ai mis là vraiment? Donc maintenant, je suis en train de travailler sur un projet d'installation avec un orgue transportable qu'on est en train de fabriquer, un petit orgue. Voilà. Et là, par exemple, parce que ça aussi, c'était pas du tout un style de musique. Enfin, je veux pas dire que j'aimais pas ça, mais j'étais pas un énorme consommateur de dub techno, par exemple, de Basic Channel, voilà, les Ernestus.
Des trucs anglais, début 90
Plutôt allemand, de Maurice von Oswald.
Un peu plus mécanique, alors.
Mécanique, mais surtout avec un peu de la... Toujours des accords, les mêmes accords qui se répètent, là, de 7-9, là.
Tu trouvais un peu ennuyeux et pas très intéressant au départ.
Non, c'était pas forcément... Beat and Rin, j'ai envoyé à Emmerich. Voilà, bah, toi, tu vois aussi. Non, que je sais pas... Que ouais, mais que c'est pas forcément une musique que j'écoutais tant que ça. Voilà, c'est... Ça se voit très toi, en plus. Hein.
Le vieux Basic Channel et tout.
On a quel année, là ?
Celui-là est de 99, mais bon, après, bon, tous les vieux Moritz et tout, moi, ça fait Moritz von Oswald, tu vois, hein, la série des M25 et tout ça. Ça, j'ai Maurizio. Maurizio. Bon, ça, c'est quand même ça, dominant. Non, 93, tu vois. Donc, t'as celui-là. Ouais, bah oui, ça, c'est. Bon voilà, et ça c'est une musique assez bizarrement que je connaissais, de musique électronique, que je connaissais, mais qui m'a fait encore plus me pencher dedans avec l'orgue. Parce que je crois que cet orgue aussi, ben voilà, on l'entend sur le morceau là, Düsseldorf, qui est très inspiré par cette dub techno. Cet orgue, il avait aussi une possibilité de délayer les jeux entre eux. Donc ce qui me permettait de, on tape une note, on en a une autre qui part juste après, donc sur tous ces tracks... Ça te va que je te mets les morceaux en même temps ?
Ah oui, carrément, ouais.
Sur le morceau Düsseldorf, on entend ça à fond. C'est que ça. En fait, c'est que des délais.
Donc un délai dans le jeu, un retard dans la note.
Oui, en fait.
C'est pas un délai analogique.
Non, ça c'est que à cause... Et donc, bizarrement, quand je suis arrivé, j'ai eu mes premiers essais. C'était justement beaucoup cette influence de... C'est dommage, j'aimerais bien te montrer ce morceau que j'avais. Je pense que j'ai quand même... Alors, je sais pas si on doit forcément mettre, mais on a un peu les premiers tests que j'avais faits. Mmh. Et justement, en fait, j'étais pas du tout parti pour faire cette musique-là. Mais c'est aussi l'instrument qui me... Si tu veux, qui m'a apporté ça. Non, par exemple, celui-là, bah, au début, c'était la fête de la saucisse sur la plaie. Ça s'est pris de vachement plus. Mais non, c'est que des délais aussi. En fait, j'envoie tum, tum, et après tum, palapa, et je fais que des jeux comme ça avec les décalages de flûte. Mais non, il n'y a pas ces trucs. Ça aussi, on va dire. En tout cas, ce principe-là m'a fait plus m'intéresser à la dub techno. Et du coup, c'est assez marrant. Je pense que c'est l'instrument, la façon qu'il y a eu de travailler. Et aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur une installation d'orgue, justement, où on sortirait des modules pour mettre, dans, on va dire, plutôt dans des... Ouais, une pensée de galerie, de musée, plutôt. Hein, donc, des petits espaces comme ça. Tout à côté, en continuant à travailler aussi dans les églises, parce que quand même, quoi qu'il en soit, les orgues sont là, et ben, j'ai toujours envie. Donc voilà, il y a quand même la puissance. Ça ne sera jamais la même puissance. On ne va pas pouvoir transporter un orgue qui a la même puissance. Donc ça va être quelque chose d'un peu différent, mais voilà.
On vient de parler beaucoup du MIDI, du fait que le MIDI peut piloter un instrument qui accepte sa norme. À quel niveau intervient l'organiste Cindy Castillo dans ce disque ?
Ah ben, il n'y est pas.
Ah ben voilà, il me semble.
On a travaillé avant.
Oui, mais parce qu'elle est dans les remerciements.
Bah parce qu'elle est dans le remerciement, parce que c'est elle qui m'a aussi beaucoup apporté sur l'orgue, la réflexion autour de l'orgue, que voilà, elle m'a énormément apporté là-dedans. Mais c'est vraiment une équipe aussi de travail qui a été assez formidable entre Thomas de chez Vleck, qui quand même a mis une grosse énergie dans ce disque, de l'investissement financier, parce qu'il a coûté beaucoup plus cher que les autres disques. Donc ça, quand même, il a osé le faire. À un moment, je pense que d'autres labels ne l'auraient pas fait. Parce qu'il voilà, faut faire une prise de son, il fallait que j'aille à Düsseldorf. Mais aussi après, derrière, toute la chaîne technique, on va dire, avec Harry Charlier, donc, qui est preneur de son de musique classique, Raphaël Hénard, donc... mon comparse du duo Pla Pla Pinky qui a fait le mix aussi et qui était vraiment, je pense, la seule personne qui pouvait mixer sur lequel je pense, je fais totalement confiance aux oreilles. Et voilà, ce que j'aime aussi avec lui, c'est que par exemple, si moi j'ai une idée mais qu'il pense que derrière, si là, son idée va être meilleure, il va me la vendre. C'est-à-dire, quand il est dedans, quand il le fait, il est exactement comme si c'était un disque à lui, il avait le même investissement, prêt à y mettre 16 heures par jour. Et après, le mastering, bon, qui a été très bien fait aussi par Frédéric Aestat, à Angstrom Mastering. Mais voilà, donc ça a été une chaîne depuis Marcus Hinz aussi de l'église qui a accueilli. C'est-à-dire que c'est que des bonnes conditions. Moi, c'est peut-être la première disque de ma vie où j'ai jamais été dans le mal. Bien sûr, des périodes difficiles de création et tout ça, mais je crois que j'étais tellement excité de travailler sur cet instrument. Quand je suis arrivé, je dis waouh, on peut faire tout ça. C'est vrai qu'au bout de 5 minutes, je savais qu'on avait un disque. Donc on l'avait pas encore, mais c'était sûr qu'on allait faire un disque. Tout s'est bien mis. Et en plus, c'était chouette parce que c'est tombé à une période post-confinement de laquelle on a vu notre pièce Solarium qui devait tourner, qui a finalement pas du tout tourné. Donc en fait, ça m'a permis de me remettre à fond dedans ce disque. Et j'étais très libre au moins de le faire aussi parce que voilà, je pensais pas, ah ben tiens, il y aura des concerts. Non, je sais pas, on essaie de faire un objet, Vlek est partant, et voilà. Et en fait, petit à petit, avec tout ça, je sais pas, il s'est passé un truc. Et voilà, donc c'est quand même, je vois aussi que toutes ces circonstances, les gens qui t'entourent, l'équipe, mais aussi le mood dans lequel t'es, peut-être, permettent aussi, je pense, de faire des disques qui se tiennent. Voilà, ça a beaucoup joué.
Maxime, je pense qu'on a fait le tour.
Ben écoute, super, merci François.
C'était Nachthorn for MIDI Controlled Organ. Entretien avec le compositeur Maxime Denuc autour de la production de son deuxième album Nachthorn, sorti en octobre 2022 sur le label Vlek. Un document radiophonique d'anthropologie sonore par François Berchincourt. Générique, textes et crédits, François Berchincourt. Enregistrement et entretien mené par François Berchincourt à Toulouse durant la matinée du mercredi 22 mars 2023. Un programme radiophonique réalisé par Campus FM à Toulouse pour la série Starting Block diffusée sur le réseau national des radios Campus.